France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Hommage à Christa Ludwig sur France Musique. Dans quelques instants, nous allons écouter quelques extraits, un petit condensé des grands entretiens qu'elle vous avait accordé en 2017. Stéphane Grande, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes délégué à l'antenne et au programme de France Musique, mais dans une autre vie, vous avez fait beaucoup de grands entretiens, et notamment à Christa Ludwig, et sur les réseaux sociaux. Hier, vous parliez d'une des plus belles, plus merveilleuses, des plus émouvantes rencontres de votre vie. Adoration absolue, vous écriviez. C'était un moment qui est resté gravé dans votre mémoire.
Un moment qui restera gravé à jamais. Je pense que c'est l'une des rencontres, la beauté et la, comment dire, la grande chance de ce métier qu'on a, Jean-Baptiste, de nous faire rencontrer quelquefois comme ça des personnes qui sont pour nous des idoles absolues, des personnes et des artistes qui nous ont fait rêver. Christa Ludwig est l'une de celles. Je crois que Philippe Cassard, que vous aviez au téléphone, vous disait que Christa Ludwig était sans doute l'une des artistes et l'une des chanteuses qui recueillait le plus d'unanimité. Et c'est tout à fait vrai, parce que le parcours absolument parfait, hors norme. Elle a su, s'emparer de tous les rôles, et Dieu sait que les rôles qu'elle a chantés sont infiniment nombreux, mais ne pas aller au-delà de ce qu'elle devait, de ce qu'elle pouvait chanter. Elle a refusé à Karajan, comme à Böhm, comme à Bernstein, des Isolde, des Electra, bref, une carrière absolument parfaite, un timbre, une voix, une personnalité, un engagement, quelqu'un a souligné ça aussi tout à l'heure dans les témoignages, absolument exceptionnel. Moi, je rêvais de la rencontrer. La rencontre, elle a eu lieu le 14 novembre 2016, je me rappellerai longtemps de cette date. C'était à Klosterneuburg, dans la maison où elle habitait, où elle s'était retirée dans les hauteurs de Vienne. C'était à 45 minutes au nord de Vienne en voiture. Je crois que ça a été, au fond, finalement, la rencontre la plus... Vous savez, comme il est difficile parfois de caler des rencontres avec des artistes, avec des grands chefs, des chanteurs. Évidemment, elle n'était plus en activité, donc elle avait du temps à elle. Je pense que ça a été la rencontre la plus simple à caler, comme on dit. Avec moi, à l'époque, travaillait Céline Tran, qui est aujourd'hui à la communication de France Musique. Elle m'aidait à préparer ses grands entretiens. Un jour, j'ai dû lui dire, écoute Céline, s'il y a une chose dont je rêve, c'est des grands entretiens avec Christa Ludwig. Et je l'ai vue un jour, je ne sais pas comment, elle a récupéré les coordonnées téléphoniques et le mail de Christa Ludwig. Je l'ai vue en face de moi dans le bureau décrocher son téléphone, appeler Christa Ludwig. J'ai compris que Christa Ludwig lui parlait de l'autre côté du téléphone. Elles ont échangé 3 mails et le rendez-vous a été fixé. On a passé une grande partie de la journée chez elle, avec Perrine Mingui qui réalisait ses entretiens, avec un ingénieur du son. J'étais dans une sorte de trac absolument inouï, à la fois fasciné, émerveillé et en même temps extrêmement heureux de passer 3 heures avec Christa Ludwig. Je pense qu'on a de mémoire pas fait de pause pendant les 3 heures de ses entretiens avec elle. Je pense que c'était moi qui étais à la fin beaucoup plus fatigué qu'elle ne l'était lorsque nous avons coupé l'enregistrement. Elle a raconté toute sa vie, qui est une vie personnelle, mais qui est une vie inscrite aussi dans la grande histoire. Ce sont des débuts à l'opéra en 1945. Ce sont tous les chefs, évidemment, qu'elle a fréquentés. Son idole absolue, la photographie du chef qui était dans son salon, c'était celle de Leonard Bernstein. C'est un moment absolument merveilleux et qui restera en effet aggravé, jamais aggravé dans ma mémoire. Oui.
D'ailleurs, on va entendre quelques extraits. Il faut vraiment entendre dans la continuité, dans la longueur, ces 5 épisodes.
Et dans un français parfait, puisque Paul-Émile Débert, évidemment, acteur à la Comédie Française, son second mari. Elle a habité en France et elle parlait très bien le français.
Et vous entendrez notamment l'histoire des 3 cyprès. On ne la raconte pas, il faut que vous écoutiez ces grands entretiens. Peu d'ego, beaucoup d'humour. Voici sur une vingtaine, 25 minutes, un petit condensé réalisé par Yacine Bouzard de ces grands entretiens.
J'étais toujours dans un théâtre parce que mon père était aussi directeur de théâtre. Ma mère a chanté et la chose qui est formidable et drôle et formidable, ma mère a chanté à Aix-la-Chapelle, par exemple, Fidelio, avec Karajan, quand il était très jeune, 27 ans. Et après 30 ans, j'ai chanté avec Karajan Fidelio.
Quel type de voix avait-elle d'ailleurs, votre maman? Comment chantait-elle?
Oh oui, c'est la même voix que moi. Oui, c'est la raison, je dis un soprano mezzo. Parce que ma mère a aussi, elle s'est ruinée la voix avec le rôle de soprano. Parce que dans un petit théâtre comme Aix-la-Chapelle, un jour on chante le rôle de soprano et l'autre de contralto. Et ça ne marchait pas. Alors, comme Callas a dit, ma voix n'est pas un ascenseur.
Votre père était chanteur également, aussi, bien sûr, avant d'être directeur de plusieurs opéras.
Oui, il a commencé aussi avec 19 ans, quoi, et baryton. Et il était avec 21 ans à la Met, au Met.
Au Met.
Au Met. Il a chanté Baiazzo, Pagliacci, avec Caruso. Et il a dit à lui, il est ténor. Alors, il était ténor, il a chanté ténor. Pas de Siegfried, mais Sigmund et Lohengrin et des choses comme ça. Et on m'a dit, je n'ai pas un souvenir à savoir, mais ici, c'était un homme qui a entendu mon père. Il a dit, la voix n'était pas très belle, mais il pouvait chanter tout, tout, tout sans problème.
Quels sont les souvenirs les plus vivaces, Christa Ludwig, que vous avez aujourd'hui de cette période des peut-être 10 premières années?
Ah oui, je sais, parce que mes parents, ils ont eu aussi une école de chant et de dramaturge, de dramaturgie. Mon père a donné des mouvements et ma mère de chant. Et j'étais toujours dans la pièce où les étudiants, ils ont chanté. Et après, j'ai dit, alors, j'étais petit, 7, 8 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, et j'ai dit, et maintenant, moi, je veux. Et j'ai chanté l'aria, et j'ai fait du mouvement, et tout ça, dans ma langue allemande, non? C'était tout en allemand. Et je connais tous les opéras par cœur, quand je commençais à chanter. C'est aussi une école pour bien parler. Parce que si on ne peut pas comprendre le chanteur, c'est terrible. Et ils ont donné aussi, mon père a fait ça, les mots pour bien prononciation. Mm-hmm. Mon Dieu, que ça est difficile. Langue française, mm-hmm. Oui.
Quel souvenir aussi vous avez de l'ambiance plus générale de ces années-là? On est avant que le grand conflit de la Deuxième Guerre mondiale n'éclate.
Je crois que c'était tout à fait normal, comme chaque enfant. Mmh. C'était rien. Non, seulement, on n'avait pas de chocolat, on n'a pas d'orange, on n'avait rien avant la guerre, non? C'était en 38, 37, 36, on ne connaissait pas ça. Je pouvais rien autre faire. J'avais une voix, j'avais un talent, j'avais une musicalité, et ma mère m'a donné des leçons de chant dans une pièce de fermier qui avait un piano. Oh, c'était fantastique. Mais cette pièce-là, c'était seulement pour dimanche, et ce n'était pas chauffé du tout. Alors, c'était toujours froid et j'avais toujours un rhume ou un toux ou quelque chose. Mais j'avais mes premiers la, c'était ça. Et après, j'ai pensé, j'avais déjà 17 ans et j'ai pensé je dois gagner un petit peu de l'argent parce que mon père n'avait pas le droit pour le travail parce qu'il était dans le parti. Bon, et on n'avait rien, alors je pouvais chanter. Je ne pouvais pas techniquement vraiment chanter, mais j'avais une voix. Alors je suis allée aussi sur la bordure verte, on dit, parce qu'on était à des occupations américaines et une autre ville était déjà dans une occupation britannique. Et on n'avait pas le droit d'aller là-bas, seulement avec un passeport et tout ça. Et j'avais pas, dans le temps-là, déjà un passeport. Alors, je suis allée sur le pelouse et dans la forêt et tout ça pour arriver dans une autre ville avec l'occupation britannique. Et j'ai chanté pour auditionner, pour avoir un engagement. Mais j'étais trop jeune, personne ne me voulait. Et un jour, je suis allée à Francfort. Et là était un directeur qui était aussi un chef d'orchestre qui aimait ma voix. Ah! Et on m'a engagé là, et ça était en 46, j'avais déjà 18 ans, alors je ne pouvais pas chanter, mais j'ai chanté. De chansons chères. Si on n'est pas dans une école, j'ai jamais fait un pas dans une école, jamais, 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 toujours avec ma mère. Et après, quand j'étais déjà vieille, je suis allée chez Zinka Milanov, la grande soprano de Toscanini, quand je devrais chanter la Lady Macbeth. C'était la seule chose. Autrement, jamais, 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 seulement ma mère. Et c'était ma bonheur qu'ils sont divorcés. Parce que ma mère a vécu avec moi dans une pièce. Une pièce. J'ai dormi sur une matelas par terre. Et j'avais toujours beaucoup de choses à côté de mon petit salaire, avec des concerts, avec des petites choses. Et j'avais 2000 marques. Et les 2000 marques, j'ai réfléchi. On se doit acheter des meubles ou un lit, par exemple, ou on peut faire des vacances. Alors, on se choisit les vacances, toujours. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
Et vous alliez où, d'ailleurs? C'était où, ces premières vacances?
C'était dans le Bayern, dans le Bavoir.
Bavière.
Bavière, yeah. Ça sent comme une bière. Ah oui, on boit aussi beaucoup de bière en Bavière.
Exact. Elle était quel type de professeur, votre mère?
Jamais, jamais j'avais une leçon comme le normal au piano. Non, j'ai chanté, elle était dans une cuisine, dans un autre environ. Il a crié, c'est faux, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai appris comme ça, oui.
Ça, c'est impensable quand même, parce que quand on sait ensuite la carrière qui a été la vôtre, mais pensez que vous êtes formé seulement avec votre mère comme professeur, pas d'autres bases, pas d'école, pas de parcours académique.
Ce n'est pas nécessaire. On doit faire toute seule. On doit aussi, pour enlargir les pensées, on doit lire, on doit voir des musées, des peintures. On doit faire soi-même.
Et la chance est l'important aussi au début d'une carrière comme la vôtre, c'est justement que pour apprendre à chanter, on apprend aussi beaucoup de rôles et on en chante beaucoup au début. Vous avez chanté beaucoup de rôles déjà à Francfort. Qu'est-ce que vous chantiez après Orlovski dans le Fledermaus?
C'était Dorabella. Ah, j'ai chanté avec 23 ans le Chevalier de la Rose. Mais je ne pouvais pas. Après le deuxième acte, je pensais, maintenant l'opéra peut être fini pour moi. Mais j'ai essayé. J'ai aussi à Tsuchena ou à Ulrika, j'ai essayé tout. Et je n'ai pas ruiné la voix parce que j'avais une bonne technique.
C'est quoi le quotidien, la vie, tous les jours d'une chanteuse d'opéra?
Vous savez, ça dépend naturellement des cordes vocales. Mes cordes vocales, très fines, et je ne pouvais pas parler. Parce que quand je parle ici. Et je chante là. Et ça sont de deux différents placements de voix. Et je ne pouvais pas parler. J'ai écrit. Et après, j'ai fait le siffle.
Siffler?
Oui, siffler.
Ça veut dire une journée de représentation, vous ne parlez à personne, même avant?
Oui, naturellement. Un jour avant, pas. Et un jour après, on ne peut pas. Et je ne joue même pas. Et on chante deux ou trois fois par la semaine. Non, si on veut chanter, on chante. Mais si on veut parler, on doit avoir des vacances.
Et ça, c'est difficile? C'est quand même quelque chose qu'on s'impose à soi-même, qui est douloureux de temps en temps à vivre?
Non, pas douloureux, parce que si on aimait chanter, alors c'est la profession, c'est tout.
C'était douloureux pour votre entourage, de temps en temps?
Douloureux pas,
difficile.
Et se fâcher. Non, et par exemple, Walter Berry, mon premier mari, il pouvait parler tout le temps, baryton. C'est la voix normale pour un homme, c'est baryton, et il avait des cordes vocales. Comme de grands, non, c'était, il pouvait aller après la représentation. On a ici le petit bistrot de Heurigen. Du Heurigen, où on boit le nouveau vin, toujours, c'est de Heurigen. Et il pouvait aller après, avec des collègues, et boire, et rire, et parler, et tout ça. Et moi, je suis venue une fois, et j'étais 3 semaines à faune. Non, ça dépend les gens.
Oui, mais tout se lance, et les vrais plaisirs sont à lui. Donc, pour me tenir compagnie, je m'aime mon amour, il est au diable. Je l'ai mise à la portière.
Trop normal.
Mais disons, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, quand on va à l'opéra, des grands artistes comme vous, Christa Ludwig, existent encore, qui font vibrer quand même le public? Ça existe.
Mais naturellement, mais ils ne sont pas des divas, non? Aussi, Netrebko aujourd'hui, elle est une grande star, mais elle n'est pas une diva comme Callas. C'est une grande différence. Elle est mariée avec un ténor, ok? Bon. Elle est normale, elle chante bien, elle est normale. Non, ce n'est pas Callas. Callas avec les affaires. Une vraie prima donna. Il doit avoir 7 affaires dans une année, de grands succès ou de grands éclats de quelque chose.
Faire parler d'elle.
Des choses éclatantes, mais pas normales, non?
Mais vous, donc, vous dites, moi, je n'étais pas une star.
Non.
Moi, je n'étais pas une prima donna.
Un mezzo, non, un mezzo soprano, je n'ai jamais une star. C'est seulement le soprano. Nous sommes de prima donna, non, seconda donna.
Vous avez entendu citer quelques noms de grands chanteurs d'opéra d'aujourd'hui au cours de ces entretiens. Christa Ludwig, ceux que l'on admire, que l'on va voir, qui remplissent les salles actuellement, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann. Vous, comment regardez-vous leur parcours, leur carrière?
Aujourd'hui, beaucoup est fait dans la publicité, avec la publicité. Avec Netrebko, par exemple, elle était très jolie quand elle a commencé ici à chanter. Elle était jeune, elle a une très bonne voix, elle a une très bonne technique et elle a un sentiment de ventre, on dit. Vous connaissez pas ça?
Non.
Un Bauchgefühl. L'interprétation ne marche pas avec la tête, ça marche avec le ventre.
Les tripes.
Avec les tripes, oui. Et tout ça ensemble fait l'art de Netrebko. Et on aime ça, et c'est très bien pour elle, et on a une publicité énorme. Tout le monde voit seulement la publicité, mais elle chante très bien. Je ne veux pas dire quelque chose contre, mais on applause, fait d'applaudissements aussi pour la publicité. Aussi Kaufmann a cette formidable voix, et il est beau, comme Corelli, non? Mais il n'a pas la voix comme Corelli, non?
Vous trouvez que les chanteurs prennent des risques beaucoup aussi, quelquefois, aujourd'hui, risques de répertoire, je veux dire?
Non. Oui, peut-être. Quand Netrebko a chanté Lady Macbeth, pas parce que moi j'ai chanté Lady Macbeth, pas du tout, mais j'ai écouté qu'elle a voix un petit peu de wobble. Ce n'était pas elle. Maintenant, Aïda, elle veut chanter Aïda à Salzburg, ça, je crois, c'est très bien pour elle. Et aussi, si Kaufmann veut chanter Othello, je sais pas. Parce que aussi, moi, j'ai remarqué, quand j'ai chanté, par exemple, Lady Macbeth ou La forme sans ombre, quelque chose dans ma voix n'a pas marché comme avant, si bien, si facile, parce qu'on a, je ne veux pas dire ruiner la voix, non, c'est trop. Mais on a fait quelque chose aux cordes vocales, quelque chose ne marche pas comme avant. Mais si on veut une carrière avec ça, on fait. Parce que ça fait plaisir, non? Je voulais seulement, toujours dans ma vie, aussi dans ma vie privée, surmonter des obstacles. Autrement, je trouve la vie tellement, tellement ennuyeuse. Die schöne weite Welt schon längst nicht mehr. Lehn, ich bleibe Sünder wahr. toujours le valise faire et deux faire et un hôtel et un autre hôtel et allez, on a assez. Et moi, j'avais 66 et 3 quarts, c'est assez. J'avais 50 ans de chanterie. J'avais ras-bol. Et j'étais tellement, aujourd'hui aussi, tellement contente de ne plus chanter. Et je ne veux plus être dans une autre vie, jamais plus être une cantatrice, jamais. Je raconte toujours une expérience que j'ai faite à Hambourg. C'était une gala de Rosenkavalier. Et Schwarzkopf était le maréchal et moi, Octavian. Et Walter Berry, mon premier mari, il était de Ox von Lerchenau. Et après la représentation avec tous les fleurs, tout était fini et on est à la porte pour aller à l'hôtel. Non? Et j'ai vu la Madame Schwarzkopf avec tous les fleurs par terre. Personne ne s'occupait d'elle. Elle attendait un taxi. Et mon premier mari et moi, on a aidé pour les fleurs et tout ça, pour le taxi. Personne n'est là. Et ça est la vie d'une diva. Hein? On fait le chant parce que ça nous plaît. On a un talent, on a une voix. Et on gagne son argent avec ça. Et ça fait plaisir avec de grands chefs d'orchestre. Mais on doit savoir que la vie après une représentation, on est toute seule. Seul dans une chambre de hôtel et seul à la rue comme Madame Schwarzkopf. Non, c'est ça. C'est trop difficile, c'est trop de sacrifices qu'on doit faire. Parce qu'on doit toujours, on pense seulement à la voix le matin quand on se réveille. La nuit, si on dort, la voix est là. Oh non, c'est l'existence, c'est terrible. Toujours les petites cordes vocales. Non, on n'a rien d'autre dans la tête que les cordes vocales, c'est terrible. Et je pensais toujours que je pouvais peut-être être une bonne mère. Non, j'étais presque jamais là. Maintenant, je suis avec mon fils plus souvent ensemble. Depuis 7 ans, je vis ici, à Klosterneuburg, et il vit à côté de moi. Et maintenant, j'ai une relation avec mon fils, mais quand il était plus jeune, je ne sais plus.
C'est votre maman qui l'a beaucoup élevé.
Ma mère.
Votre mère, oui.
Oui, ma mère.
Ça a été une sorte de libération, du coup, quand vous avez arrêté de chanter en 1994, vous avez pu faire tout ce que vous ne faisiez pas pendant 50 ans, c'est-à-dire parler, boire, un coup de temps en temps.
Ah oui, oui, j'étais heureuse. Et c'était en décembre, et ça neigeait. Et je suis allée, le jour après la dernière représentation, je suis allée à Vienne, dans la rue, avec le cou ouvert. Je me voulais une fois enrhumée, en tranquillité. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'ai pas enrhumée. Ça commence tout dans la tête.
Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui vous font vibrer que tous les répertoires qu'on a évoqués? On n'a pas parlé beaucoup de Bach. Vous avez beaucoup chanté Bach et enregistré, bien sûr, des Passions, Messe en Si. Est-ce que Bach au piano, par exemple, est quelque chose que vous aimez beaucoup, Christa Ludwig?
Dans mon île, l'île déserte, je prends Gelingold avec Bach.
Pourquoi?
On a toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a pas entendu. Et ça, c'est avec beaucoup de facettes, c'est extraordinaire. Et c'est la mathématique, non? C'est extraordinaire. Non, c'est la seule chose que je prends avec moi. C'est ça.
Merci infiniment de nous avoir reçus ici, chez vous, Christa Ludwig. C'était un
grand plaisir, un grand honneur et une grande émotion, je peux le dire. Merci beaucoup.
Et excusez-moi mon mauvais français. Bien. Et maintenant le café?
Avec grand plaisir.
Yeah?
Oui,
okay.
Avec grand plaisir.
Un petit, une grande tasse, comme on vous voulez.
Un petit,
aussi
une petite
tasse.
Le bonheur, un café avec Christa Ludwig. C'était donc un extrait de ces grands entretiens que la Mezzo avait accordé à France Musique, à Stéphane Grande, fin 2016. Une émission réalisée par Perrine Mingui, à réécouter sur francemusique.fr et en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.